943. Tout ce que vous voulez que les gens fassent pour vous, vous aussi, faites-le de même pour eux. C'est là la loi et les prophètes. Entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieux le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Gardez-vous des prophètes de mensonges. Ils viennent à vous déguisés en moutons, mais au-dedans, ce sont des loups voraces. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre produit de bons fruits, tandis que l'arbre mauvais produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut produire de mauvais fruits, ni un arbre malade produire de beaux fruits. Tout arbre qui ne produit pas de beaux fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez.
Merci Anne. On est donc dans notre série Vivre autrement sur l'évangile selon Matthieu, la partie qu'on surnomme le sermon sur la montagne. Et dans ce discours, Jésus décrit ce à quoi la vie des disciples devrait ressembler, une vie radicalement différente de ce qu'on a l'habitude de voir ou de ce qu'on entend. Et en quoi est-ce que c'est radicalement différent? Eh bien, par exemple, on voit que pour Jésus, renoncer au meurtre, ce n'est pas simplement renoncer à l'acte, c'est renoncer aux paroles et aux pensées qui vont dans le même sens. La disparition de l'autre. Renoncer à l'adultère, ce n'est pas simplement renoncer à l'acte, c'est renoncer aux pensées qui vont dans le même sens. Renoncer à la vengeance, et c'est renoncer non seulement à vouloir faire la même chose qu'on nous a fait, mais en plus de cela, d'aimer la personne, de prier pour ceux qui nous méprisent, qui nous maltraitent. C'est un amour radicalement différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Et cette radicalité, elle se reflète aussi dans la manière de vivre sa piété, la manière de vivre sa foi. On voit que ce n'est pas simplement pour être bien vu qu'on va vivre sa piété, et au contraire d'être bien vu, lorsque je prie, lorsque je fais le bien, est-ce que je suis prêt à le faire sans que personne le sache, sans que personne le voie. Et on réalise, en écoutant Jésus, qu'il désire aller en profondeur, toucher le cœur et pas simplement la surface. Il enseigne un amour pour Dieu et pour les autres qui est clairement radical dans ses implications. Et on en voit les traces tout au début du passage qu'on vient d'entendre. Vous l'avez entendu, « Tout ce que vous voulez que les gens fassent pour vous, vous aussi, faites-le de même pour eux. » Un amour qui est à la recherche de ce qu'il y a de meilleur pour l'autre. Comment réagir face à ce que Jésus demande? Dans son traité de philosophie, et tout en n'étant pas croyant, Luc Ferry présente plusieurs raisons pour lesquelles, selon lui, le christianisme a été attractif dans l'histoire. Il montre que le christianisme a pris la place en particulier de la philosophie grecque, du stoïcisme. Et selon lui, ce qui a séduit, ce sont les éléments comme la valeur donnée à l'existence humaine, les droits de l'homme, la valeur donnée à l'individu, l'amour, la foi qui va au-delà de la mort, l'espérance de la vie après la mort, etc. Et en entendant cela, on pourrait avoir le sentiment d'un message qui est irrésistiblement attrayant, et comme il le dit lui-même, d'une tentation attrayante. Pourtant, si vous écoutez ce que Jésus dit ici, vous devriez voir qu'il y a quelque chose qui n'est pas si attrayant que ça. Et ça devrait nous faire réfléchir. Je vous propose de résumer le passage de la façon suivante. Face à l'amour radical de Jésus, il faut d'une part s'attendre à aller à contre-courant, et d'autre part s'attendre à ce que son message soit déformé. Face à l'amour radical de Jésus, il faut s'attendre d'une part à aller à contre-courant, et d'autre part, s'attendre à ce que son message soit déformé. La première affirmation de Jésus, ce sera le fait que peu de gens finalement suivent cette voie. Et la deuxième affirmation, il faut s'attendre à ce que son message soit déformé, rendu accessible. Alors, est-ce que c'est vraiment si tentant que ça, si irrésistible? Eh bien, je vous propose de le voir dans le texte avec le plan suivant. Un amour large au verset 12, une voie étroite, verset 13 à 14, et une géométrie variable, 15 à 20. Un amour large, pour commencer. J'ai mentionné l'amour que Jésus enseigne pour les ennemis, un amour qui doit englober même les ennemis. Ça serait pour l'objet de l'amour. Mais il est large aussi dans la manière. Tout ce que vous voulez que les gens fassent pour vous, vous aussi, faites-le de même pour eux. Il s'agit de ce qu'on appelle la règle d'or, en quelque sorte un résumé de la manière de vivre avec les autres, de son éthique, de notre comportement avec les autres. Et Jésus n'est pas le seul à vouloir en quelque sorte résumer cette éthique. Dans l'histoire, il y en a eu d'autres. Il y a eu Confucius, il y a eu les philosophes stoïciens, justement, et d'autres qui ont résumé leur éthique. Pour Confucius, par exemple, la forme est à peu près la suivante. Ne faites pas aux autres ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fasse. Et vous avez peut-être entendu, que ce soit dans les cours de philosophie ou tout simplement dans vos cours, la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. C'est bien, vous avez bien retenu. Le prof de philo peut être content de vous. Et quand on y réfléchit, déjà là, il y a un défi, il y a quelque chose à rechercher qui n'est pas facile à atteindre. Je veux m'abstenir de ce qui va être une entrave à la liberté de l'autre. Je veux me garder de faire quelque chose qui va offenser l'autre inutilement, pas empiéter sur sa liberté. Mais la règle dont Jésus parle ici, elle est beaucoup plus large, beaucoup plus englobante. Si on y réfléchit, ce n'est pas simplement s'abstenir de ce qui va faire du mal à l'autre, pas simplement garder sa zone privée. Imaginez votre voyage dans le métro où on veut éviter de toucher les autres. On pourrait imaginer toute une journée où vous arrivez à vivre sans entraver la liberté de l'autre. Mais est-ce que vous aurez cherché à l'encourager? Est-ce que vous aurez cherché à servir l'autre personne? Est-ce que vous l'aurez aidé? Est-ce que vous serez allé jusque-là? L'amour dont Jésus parle, il est beaucoup plus large, beaucoup plus grand dans ses implications, et beaucoup plus radical d'une certaine façon. La raison que Jésus donne pour l'application de cette règle, c'est qu'il s'agit de la loi et des prophètes. En gros, c'est le résumé de toute la première partie de la Bible, des Écritures, la loi et les prophètes, c'est cela. Deux remarques sur cette raison que Jésus donne. D'une part, on réalise que le fondement ou la motivation, ce n'est pas simplement un retour d'ascenseur. Imaginez si vous vouliez appliquer cette règle simplement pour qu'on vous fasse pareil. Quand Jésus dit « faites pour les autres ce que vous voudriez qu'on fasse pour vous », ce n'est pas la motivation qu'il met en évidence, c'est tout simplement le contenu. Est-ce que je suis prêt à faire ce que j'aimerais qu'on fasse pour moi? La raison, c'est ce qui vient ensuite, car c'est là la loi et les prophètes. Autrement dit, c'est par obéissance à la parole de Dieu, aux Écritures, et pas simplement sur la base de mes instincts, de mes désirs que je vais agir, mais sur la base de l'obéissance à sa parole. Deuxième remarque, c'est qu'on réalise qu'il s'agit d'un démenti de ce que les pharisiens pensaient au sujet de Jésus. On voit plutôt dans le sermon que Jésus doit démentir une idée qui traîne dans les esprits, c'est qu'il serait venu en quelque sorte abolir la loi. L'accent sur la foi en lui, l'accent sur la grâce, tout ça semblait mépriser la loi. Mais remarquez que Jésus, s'il parle d'un salut effectivement qui se vit par la foi en lui, découle dans l'obéissance à la loi. D'abord, il y aura effectivement cette foi en lui, cette foi qui sauve, et ensuite viendra une vie en conformité avec la loi. Non pas une loi qui sauve, une foi qui sauve, et ensuite l'obéissance à la loi. Mais il ne dénigre pas l'obéissance à la loi. À quoi est-ce qu'elle ressemble, cette règle d'or? Alors, je n'ai pas réussi à retrouver l'entretien, mais Roger Federer est en train de jouer en ce moment. Et bien sûr, vous avez éteint vos portables et vous ne savez pas ce qui se passe. C'est très bien. Parce qu'il y a la finale de Roland-Garros en ce moment. Mais lorsqu'il a terminé le match avec Djokovic, il a été interviewé par les journalistes. Et au moment où on lui disait justement qu'il avait interrompu tout un record de Djokovic sur le nombre de matchs où il n'avait pas perdu, Federer aurait pu tout simplement se focaliser sur lui-même et parler de cette victoire, dire effectivement, j'ai interrompu toute sa série de matchs sans défaite. Mais plutôt que de faire cela, il a relevé comment ce que Djokovic avait fait était plus difficile que ce que d'autres, comme Borg, ou ont fait par le passé à cause de toute la difficulté à suivre le rythme aujourd'hui. Comment penser à l'autre quand je suis dans une position où finalement on pourrait avoir toute l'attention sur moi? Comment est-ce que vous réfléchissez au moment où un poste que plusieurs personnes souhaitaient, vous l'obtenez? Comment est-ce que vous allez réagir? Quelle sera votre première remarque? Quelle sera votre manière d'agir? Est-ce que vous allez prendre l'air d'un grand vainqueur? Ou alors, peut-être rester silencieux, mais silencieux justement. Ou est-ce que vous allez commenter sur le fait que d'autres avaient des qualifications pour avoir ce même boulot? Les autres avaient des mérites pour obtenir cette même place que vous allez prendre. Est-ce que vous allez aller jusque-là? Est-ce que cet amour, il sera suffisamment large, suffisamment radical pour aller plus loin que le statu quo? Hier, on avait un repas avec des amis et on revenait sur la période où on s'est marié avec Anna et on parlait de ce qui s'est passé juste avant. C'était le grand stress pour terminer toutes les choses à faire. Et mon ancien colocataire a mentionné le fait que j'avais passé beaucoup de temps, qu'il y avait beaucoup de choses à terminer avant le mariage. Et on en discutait. Et c'est seulement par la suite que j'ai réalisé, mais en fait, j'ai écouté tout cela, on en a parlé, mais à quel moment est-ce que j'ai parlé de ce que Anna faisait de son côté pour préparer le mariage? À quel moment est-ce que moi, je vais dire ce qu'elle a fait alors qu'on n'en parlait pas? Ou que d'autres autour de la table ont fait à d'autres périodes de stress? C'est si facile finalement de rester dans un statu quo. Alors que Jésus ici nous pousse à aller plus loin, à prendre l'initiative de faire pour les autres ce qu'on voudrait qu'on fasse pour nous. Et dans les petites choses. C'est un amour plus large, plus radical, et ça nous invite à voir la deuxième partie, une voie étroite. Une voie étroite dans les versets 13 à 14. Entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieux le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Comme il le fait ailleurs dans son discours, Jésus utilise des contrastes. Contrastes entre plusieurs choses, deux voies, deux portes, deux destinations, deux foules. Et il les contraste à chaque fois. Commençons avec la voie. Voie étroite, voie large. L'une est facile parce que spacieuse, elle est large. Il n'y a pas de courbe, pas de limite, ni dans les pensées, ni dans les conduites. Et par cette image, Jésus décrit, semble-t-il, la variété de comportements qu'on peut s'autoriser, tous les comportements possibles. Il n'y a pas vraiment de maîtrise de soi à avoir. On peut suivre ses inclinations. C'est une voie large. Sur cette voie-là, on peut rester superficiel, on peut rester focalisé sur soi, on peut rester hypocrite, avoir une religiosité mécanique, être sévère dans la critique des autres. On peut ne pas se préoccuper de l'amour du prochain. C'est facile, c'est une voie large. Finalement, tout ce que Jésus enseigne plus tôt est mis en parenthèse, puisque vous avez tout simplement à vous laisser aller. Voie large. Mais pour ce qui est de la voie étroite, elle a des limites, elle a des contours qui sont marqués. On s'y conforme à ce que disent les Écritures, à ce que Jésus enseigne au sujet de ce qu'on croit, au sujet de ce qu'on vit, notre conduite. Et là, dans un sens, elle est plus dure à suivre. Est-ce que ça signifie pour autant qu'il y a plus de joie, plus de liberté, c'est je suis cette voie et je ne bouge pas, j'ai mes ornières et je suis. Si on continue à lire l'Évangile selon Matthieu, on découvre des paroles de Jésus qui, tout en invitant à le suivre, témoignent d'une paix, d'une sérénité, d'un repos et finalement d'une liberté qui se trouve dans le fait de le suivre, qui s'attache à ce choix. Matthieu 11. Et en fait, on aurait tort de mettre les deux passages en opposition. Si le fait de suivre cette voie semble effectivement difficile au départ, parce qu'on y voit la rigueur, on y voit certaines limites, on réalise ensuite que c'est de cette façon qu'on goûte à une vraie joie, à une vraie paix, à une vraie liberté. Alors c'est vrai, ce n'est pas la liberté de faire tout ce que j'ai envie, une licence pour tout et n'importe quoi, mais c'est plutôt une liberté qui consiste à ne plus devoir suivre simplement mes penchants, mes propres inclinations. Jésus contraste ensuite les deux portes. Deux portes, une porte large, on n'a pas besoin de renoncer à quelque chose. Elle est large, on peut y emmener son orgueil, on peut avoir une arrogance, des colères injustifiées, on peut vivre comme on a envie de le vivre, pas besoin d'y renoncer. Mais la porte étroite, d'une certaine façon, d'une part, c'est plus facile à manquer, on peut passer à côté sans la voir, mais aussi c'est difficile à voir et à entrer parce que ça fait obstacle, certaines choses font obstacle à notre entrée. On pense au jeune homme riche, on pense à des personnes qui avaient de la peine à renoncer à ce qui était le plus cher. Il y a deux destinations qui sont contrastées ensuite. La porte large, elle mène à la perdition, la destruction. Et là, Jésus se montre honnête quant aux conséquences, quand on suit cette voie large, où on serait nos propres maîtres, ses propres maîtres. Il nous dit en toute honnêteté que c'est destructeur. Quand on suit ses propres instincts, ses propres désirs, c'est destructeur et on s'y perd au final. La porte étroite, quant à elle, mène à la vie. Et au contraire de la destruction, c'est la vie éternelle, la vie en abondance. Le dernier contraste, le quatrième contraste, c'est le contraste entre deux foules. Et le constat que Jésus fait, c'est que nombreux sont ceux qui suivent la voie large, facile, et peu sont ceux qui suivent la voie étroite. Dans une démocratie comme la nôtre, on a l'habitude de penser que la majorité a raison, n'est-ce pas ? Quand on doit voter sur une loi, quand on doit réfléchir à une éthique, on a le sentiment que la majorité va forcément trouver la bonne loi, la bonne législation, la bonne éthique qui va être juste, bien fondée. Mais ce que Jésus dévoile ici, c'est qu'on peut se leurrer. La majorité peut se leurrer sur la réalité. Et ça se retrouve aussi dans le domaine spirituel, le domaine de la foi. Un commentateur de ce passage mentionne le personnage d'Athanase d'Alexandrie qui a vécu au IVe siècle. Et durant cette période où il a vécu, il y avait cette affirmation selon laquelle Jésus n'était pas Dieu, n'avait jamais prétendu être Dieu. Et cette affirmation était populaire au point où l'idée remportait du terrain, du succès. La divinité de Jésus, elle va par la suite être réaffirmée. Mais au plus bas de la tourmente, Athanase était devenu très isolé dans sa position. Et au point où certains collègues le pressaient de renoncer à son opinion. Et en lui disant que désormais, le monde entier était contre lui, contre l'idée que Jésus soit Dieu. Et quelle était la réponse d'Athanase ? Simple, dévastatrice. Alors ce sera Athanase contre le reste du monde. Et d'où son surnom par la suite d'Athanasius contra mundum. Il était prêt, même si ce n'était pas populaire, à se poser contre la majorité. Maintenant, en disant cela, vous êtes peut-être en train de penser, mais ça peut être arrogant d'avoir une position comme ça, non ? seul contre tous, un peu comme un justicier, un peu comme le seul juste. Mais si on y réfléchit, si c'est bien cette position-là qui était adoptée, on y verrait l'arrogance, on y verrait l'orgueil, et finalement tout ce qui, là encore, est en contradiction avec les Écritures, en contradiction avec ce que Jésus a enseigné. Et à chaque fois, pour l'un comme pour l'autre, la pierre de touche, ce qui permet d'évaluer notre position, ce sont les Écritures, justement. Ce qui ressort ici, c'est que ce n'est pas forcément la majorité qui a raison. Une question qu'on pourrait aussi avoir sur la base de ce que Jésus affirme là, c'est: est-ce que ça signifie que peu de personnes, finalement, vont être sauvées? Est-ce que ça signifie qu'il y aura peu de personnes qui vont croire en Jésus en fin de compte? Eh bien, on peut lire d'autres passages dans la Bible qui nous montrent une autre facette. Apocalypse 7, verset 9, par exemple, on découvre que ceux qui ont placé leur foi en Jésus sont décrits comme une foule que personne ne pouvait compter. Autrement dit, en fin de compte, ce n'est pas comme s'il s'agissait d'une petite minorité, un groupuscule. Il s'agit d'une foule que personne ne pouvait compter. Mais dans l'immédiat, et peut-être dans votre environnement, vous êtes le seul à avoir des convictions, telles que Jésus les enseigne. Dans l'immédiat, là où vous êtes, là où je suis, vous faites peut-être partie de la toute petite minorité, à ce moment-là, dans l'histoire. Oui. Et qu'est-ce que Jésus veut mettre en évidence par ces contrastes? Eh bien, n'est-ce pas la nécessité d'un choix, d'un positionnement? Justement, d'une invitation à entrer dans cette porte, par cette porte étroite. C'est ce qu'il dit au début, entrer par la porte étroite. Autrement dit, cette positionnement et cette présentation, par contraste, c'est une invitation à dire: je veux suivre cette voie. On va se positionner, même par défaut, même quand on refuse de se positionner, on va se positionner. Et Jésus nous invite à être clair dans notre choix. On arrive maintenant à la troisième partie, une géométrie variable. Et je ne sais pas ce qui vous a passé par la tête quand vous entendez les paroles, vous lisez les paroles de Jésus lorsqu'il dit « porte étroite, chemin resserré ». C'est quoi votre première réaction? Est-ce que ce serait pas envie de, on n'aurait pas envie de dire, mais il y a quand même quelque chose de plus beau, non? De plus attractif? Pour reprendre les termes de Luc Ferry, est-ce qu'on pourrait pas présenter les choses de manière plus tentante, plus séduisante? Et en fait, c'est un des problèmes qu'on retrouve dans cette troisième partie, géométrie variable, c'est que justement, la tentation, elle se trouve plutôt dans le fait de vouloir modifier la géométrie de l'enseignement de Jésus. C'est là où elle se trouve, la tentation. On a envie de modifier ce que Jésus enseigne. En cherchant géométrie variable sur Internet, vous trouvez plusieurs choses, mais une des choses qui revient, c'est par exemple l'aviation militaire, où on voit des avions qui, à une certaine vitesse, vont modifier la position des ailes. Et d'une certaine manière, il y a des choses qui demeurent, le cockpit, la partie centrale de l'avion, mais les ailes se déplacent, bougent pour être plus ou moins aérodynamiques. Pour être aérodynamiques. C'est un peu pareil avec l'enseignement de Jésus, n'est-ce pas? Il y a des choses qui sont attractives. Et peut-être n'importe qui dans la rue dira de Jésus qu'il y a des choses intéressantes dans son enseignement. L'amour pour le prochain, le pardon, la dignité humaine, l'égalité des droits. Mais il y a d'autres choses qu'on est tenté de changer, non? Que dire de l'exclusivité du message? Jésus, le seul chemin qui mène vers Dieu? Parler de destruction, d'enfer, comment on pourrait parler de ça? Ces miracles? Il y a des choses qu'on aura envie de modifier pour les rendre plus attrayantes, plus agréables pour nos contemporains. Et c'est là qu'il est question des prophètes de mensonges. En entendant parler de prophètes de mensonges, je ne sais pas à quoi vous pensez. Vous pensez peut-être à Madame Soleil, mais qui a loupé sa carrière, quoi, qui n'est pas bonne. Madame Soleil qui prédit l'avenir, mais qui est en fait pas du tout douée pour le job, aucun talent. Mais là, ici, ce que Jésus veut mettre en évidence, c'est pas prophète dans ce sens-là. C'est plutôt quelqu'un qui se fait le porte-parole de Dieu, qui veut parler sur la base de sa parole. Et il utilise une image pour décrire ces prophètes de mensonges. Au verset 15, il parle de ceux qui se déguisent en moutons, mais qui en fait, sont des loups. Et là encore, on voit la géométrie variable. À l'intérieur, ce sont des loups, à l'extérieur, des moutons. Et on découvre à la fois l'aspect trompeur et dangereux dans la même personne. Mais à quel genre de mensonge on a affaire ? Une manière de comprendre le mensonge dont il est question, ce serait tout simplement de revenir sur ce que Jésus vient de dire et de voir qu'il y aura une tendance chez ces prophètes de mensonges à modifier ce que Jésus vient de dire. Une tendance à relativiser l'importance de l'obéissance à ses commandements, l'importance d'un amour radical. Ça serait une manière de voir le mensonge. Mais de manière plus générale, Jésus utilise une image qui doit nous aider à déceler tout ce qui est mensonge. Et au verset 17, on lit « Tout bon arbre produit de beaux fruits, tandis que l'arbre malade produit de mauvais fruits. » Et plus loin, « C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » Il utilise une image de l'agriculture pour parler de cette manière d'identifier ce qui ne va pas, ce qui ne colle pas. C'est le fruit. John Stott, dans son commentaire sur ce passage, suggère trois possibilités. Une manière de comprendre un fruit, ce serait par exemple un décalage entre des paroles et une conduite. Quelqu'un qui dit quelque chose, mais qui vit tout autrement. Quelqu'un qui serait attaché à l'argent, alors qu'il dit qu'il faut renoncer à l'argent. Quelqu'un qui vivrait une sexualité débridée, alors qu'il enseigne une sexualité qui est belle et qui s'attache, qui est exclusive. Un autre fruit, ce serait d'examiner l'enseignement lui-même. Est-ce qu'il est conforme aux Écritures, comme Jésus veut le faire en parlant de la loi et des prophètes, lui se conforme aux Écritures. Quelqu'un qui serait faux prophète ou prophète de mensonge, il aurait ce décalage avec les Écritures. Un troisième fruit qu'on aurait à identifier, ce serait ce que produit l'enseignement. Sur quoi est-ce que ça découle ? Pour des personnes qui suivent ces prophètes de mensonge, à qui sont-ils attachés le plus ? Est-ce qu'ils sont attachés à Jésus de plus en plus, aux Écritures ? Ou finalement à la personne qui les enseigne. Quel sera le fruit ? Et tout comme un fruit qui prend du temps pour être produit, tout comme un arbre qu'on a de la peine à identifier en hiver, il y aura certains fruits qui prendront du temps, mais Jésus nous invite à le reconnaître. Je prendrai simplement deux exemples. Il y avait dans le journal 20 minutes du 12 mai dernier un article concernant un certain Harold Camping qui annonçait la fin des temps pour le 21 mai. Alors, effectivement, c'est derrière. C'est le 21 mai. Et il l'avait déjà fait en 1994. Et tout en affirmant que c'est la fin des temps, il se dit très attaché à la Bible, aux Écritures. Et paraît-il, la fin des temps a été déplacée en octobre, donc il vous donne un peu de marge. Mais comment peut-il se présenter ? Comment peut-il se présenter comme étant attaché à la Bible, alors que Jésus dit lui-même que nous ne connaissons ni le jour ni l'heure ? Comment peut-il dire cela ? Hier, je faisais des recherches pour une étude sur la résurrection et je suis tombé sur un site d'une église ici à Paris, où le pasteur répondait à une question sur la résurrection, la personne ayant affirmé « Pour moi, la résurrection, c'est inacceptable. » Et le pasteur de répondre, c'était triste à lire, que finalement, il y a bien des opinions, bien des manières de comprendre la résurrection. Pour lui, il n'y a pas de résurrection corporelle. Et probablement quelque chose de spirituel à comprendre. Et il conclut sa réponse en disant « Sur ce point, comme sur les autres, sentez-vous absolument libre de penser par vous-même. » Sentez-vous absolument libre de penser par vous-même. Comment est-ce qu'on peut comprendre cet enseignement-là à la lumière de 1 Corinthiens 15 ? où Paul dit, et si Christ n'est pas ressuscité, et une résurrection corporelle, alors notre prédication est vaine, et votre foi est vaine. Comment comprendre? Et finalement, ça nous invite ici à la RDS aussi à réfléchir à l'enseignement que vous recevez. À chaque fois que vous nous entendez parler, vous avez à observer ces mêmes fruits et à rechercher cette même cohérence, cette même conformité aux Écritures et à réfléchir à là où ça nous amène. Avec un amour large, une voie étroite, une géométrie variable, comment est-ce qu'on va aller de l'avant? Si on est réaliste par rapport à nous-mêmes, aux exigences de Jésus, comment est-ce qu'on va aller de l'avant? Est-ce qu'on va se croire au-dessus de la norme et capable de vivre selon cette loi? C'est important de revenir à ce que Jésus a dit plus tôt dans ce sermon sur la montagne. Il a dit qu'il n'est pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. La certitude que nous avons ici à la RDS, c'est qu'il n'y a aucun d'entre nous qui est capable de vivre par lui-même selon cette loi. Mais en venant l'accomplir, il accepte, comme on l'a chanté, d'encaisser les conséquences. C'est lui qui prend la destruction. C'est lui qui, à la croix, a encaissé notre condamnation. Mais il nous invite, à cause de ce qu'il a fait, à vivre de manière radicalement différente. Pas de vivre selon cette loi pour nous justifier devant lui, c'est déjà fait, mais de vivre à la lumière de ce qu'il a fait, parce que nous sommes justifiés, parce qu'il nous a libérés du poids de cette loi, de vivre avec ces exigences-là de manière toute différente. Je vous invite à prier. Notre Père, nous voulons te remercier pour cette loi qui nous dérange, qui doit nous déranger. Et nous te prions que nous puissions voir combien nous sommes à côté d'un amour aussi pur que celui que Jésus nous a manifesté. Et sachant ce qu'il a fait pour nous, Père, que tu nous accordes la joie dans les jours qui viennent d'aller au-devant des autres, de prendre des initiatives, de renoncer au statu quo dans nos relations et de faire pour les autres ce que nous aimerions qu'ils fassent pour nous. Aide-nous à aimer de manière radicalement différente parce que nous avons été aimés de cette façon. En Jésus. Amen.